Bonsoir, chers auditeurs. Nous nous retrouvons pour nos mardis soirs de 21h30 à 23h. Et je reçois, comme d'habitude, notre ami, très cher ami, le pasteur Blanchard. Vous êtes là ? Vous écoutez ?
Oui, je vous écoute, cher Hilaire.
Alors, donnez-nous des nouvelles de vous.
Tout d'abord, je voudrais dire que en un mois de temps, les choses se sont dégradées. Mais il y a une bonne nouvelle, c'est que il y a quelqu'un qui a dit de lui « Je suis le chemin, la vérité et la vie ».
Oui.
Il ne vient au Père que par moi. Oui. Et il est vraiment ressuscité parce qu'on a vraiment besoin de lui. Vu le contexte dans lequel on se trouve, les choses se dégradent à une vitesse hallucinante.
Et il a dit « Je suis la vérité ». Ego eimi e odos e aletheia e zoe.
Oui, tout à fait. C'est en lui que nous devons mettre notre confiance et notre espérance.
Mais parfaitement. C'est même notre seule espérance. Étant donné les circonstances actuelles, je ne vois pas très bien quel espoir naturel nous pourrions avoir ici-bas, aujourd'hui.
Oui, tout à fait. Alors, écoutez, vous le savez, ça fait plus de 50 ans que je continue à œuvrer comme travailleur social, professionnel, dans le champ du social, qui est occupé... on le sait par les associations pro-migration, en majorité, à 95%, si ce n'est pas plus. Et ma petite association, une des rares à être dans le champ du nationalisme, pense d'abord à ceux qui sont de notre culture, de notre civilisation, ceux qui ont fait notre continent.
Et évidemment, elle ne reçoit pas de subvention publique.
Ah non, elle n'est pas aidée, elle n'a jamais été aidée. Donc Mais nous sommes des gens libres, et ça n'a pas de prix. Alors, nous avons à travers Espérance au cœur, et son numéro vert, le 09 72 16 33 10, 09 72 16 33 10, un lieu d'écoute et de partage pour les gens qui ont des problèmes et qui cherchent une oreille qui peut les aider et qui peut amener un peu de réconfort. Parce qu'on a besoin dans ce monde de réconfort et d'espérance. Vous savez la différence entre l'espoir et l'espérance.
Mais oui.
L'espoir nous ouvre sur le quotidien. J'espère que demain, le prix de l'essence sera moins élevé. Mais l'espérance, elle, nous ouvre sur l'éternité. La petite flamme de l'espérance qu'a si bien chanté Charles Péguy, Jeanne la Lorraine. Voilà ce qui nous habite. Nous sommes rien, nous sommes des petits, des sans-grades, mais nous avons cette espérance chevillée au cœur. Par ailleurs, notre déléguée nationale, Béatrice Chaberneau, nous propose toujours, à ceux qui le souhaitent, des rédactions de formulaires professionnels ou privés, ainsi que de l'aide sur Internet. Son téléphone, le 06 79 72 88 10. 06 79 72 88 10. Son courriel, Béatrice Chaberneau, avec un dé à la fin, @orange.fr. Enfin, l'anecdote de ce mois-ci, c'est une anecdote qui est parfois amusante, mais qui aurait pu tourner au psychodrame. Lors d'une marotte de Noël, et Dieu sait s'il y a eu des maraudes de Noël où notre ami Bruno Gollnisch est venu, des maraudes d'ouverture, des maraudes de clôture. Bruno est vraiment un fidèle de notre association et cette maraude de Noël, il était venu avec Bruno Subtil, le SD de Troyes à l'époque, secrétaire départemental FN de Troyes, et un de ses adhérents qui voulait filmer la maraude. Voilà. Et donc, c'était à Noël, et nous étions arrivés à l'angle du boulevard qui donne en face de la gare d'Austerlitz et du Jardin des Plantes. Et là, il y a un SDF qu'on connaissait bien, qui est parti, et dont j'aurai l'occasion de reparler à l'avenir. Cet SDF s'appelait Michel, il était entouré de SDF. Et donc, nous commençons à entamer la conversation avec Michel. Et donc le monsieur du FN filme la scène. Et là-dessus, un SDF raviné, qui était dans un état, il tenait à peine debout, commence à dire à ce monsieur, arrêtez de filmer, il commence à l'insulter, il commence à l'agresser, et Bruno prend la mouche et lui dit, mais il s'adresse pas à vous, il vous filme pas, il filme Michel, donc vous voyez bien que ça vous concerne pas. Et le gars se retourne contre Bruno et il commence à insulter Bruno. Alors Bruno lui dit, avec qui était quelqu'un, qui est quelqu'un de bien éduqué, lui dit,
Et
vous
toujours.
avez enlevé ce que vous avez dit, hein, parce que autrement je vais mal le prendre, hein, attention, hein, attention à ce que vous dites, hein. Et le gars, plus on le reprenait, plus il s'énervait, à un point tel qu'à un moment donné, j'ai cru qu'ils en arrivaient aux mains. Et à un point tel que il a fallu que je tire Bruno par la manche et dit, voilà, on va partir, tu
Oui,
vois bien
ça
à
servait
quel
à
point
rien.
il est raviné, donc c'est pas la peine de discuter, mais ça s'était tellement envenimé que c'était sur le point d'en arriver à la baston. Et là, on retraverse pour remonter dans notre véhicule, l'équipe, et de l'autre côté de la rue, sur le trottoir, il continue à nous insulter. Il ouvre sa braguette et puis il nous montre son service trois pièces en continuant de nous insulter. Et en montant dans le véhicule, il y avait un Marseillais qui était avec nous pour la maraude et qui dit, un député européen a failli finir au bloc par s'être bastonné avec un SDF. Alors ça a été, oui, Bruno, il a le sang chaud et cette fois-là, il s'était vraiment, vraiment énervé. Donc,
D'accord,
voilà,
d'accord.
donc les petites histoires concernant la vie des SDF. Et je reparlerai de ce Michel parce que c'était un personnage incontournable. Il a été une vedette d'un film qui était tourné par un journaliste qui a vécu un an en immersion dans les milieux SDF. Et il y a un film qui est sorti, on peut le trouver sur Internet, Au bord du monde, où on voit Michel. En train de parler. D'ailleurs, Michel, c'est un cas parce que il s'exprimait de telle manière que je ne comprenais pas ce qu'il me disait. C'était du vieux français et en réalité, il était de, il parlait comme Céline. Il s'exprimait en vieux français, les expressions et tournures de phrases qui sont plus usitées. Et ça a été quelqu'un, un des premiers qu'on a rencontré et qui a joué un rôle clé dans notre venue sur le trottoir parisien pour aider les SDF.
Très bien.
Enfin, nous avons donc perdu Michel et d'autres depuis, mais nous continuons notre petit travail et pour les amoureux de Radio Courtoisie, comme chaque fois j'annonce qu'ils peuvent voir leurs anciennes émissions il y a plus de 30 ans, dans notre blog qui s'appelle Mémoire au cœur, un seul mot, .overblog.com. Enfin, si vous faites un geste militant en allant visiter le blog du pasteur Blanchard sur Internet, en mettant sur Google blog du pasteur Blanchard, je vous en serai reconnaissant. Voilà donc Bruno, fidèle parmi les fidèles de l'ASP, et qui nous a toujours soutenus et qui est à nos côtés. Et on a tous les deux vécu cette épreuve de perdre nos épouses. Et tout ça nous tisse des liens d'amitié, d'affection qui s'inscrivent jusque dans l'éternité.
Merci,
Joyeuse Pâques à tous, que le
merci,
Seigneur vous bénisse et vous garde. Ne doutez
merci.
pas, il règne. Ne soyez pas comme Thomas, il est là, il est présent.
Merci, pasteur Blanchard. À la
Au mois
prochaine fois,
prochain.
au mois prochain, entendu. Merci beaucoup. Alors, chers amis, ce soir, je reçois le général Jean-Marie Faugère, que je connais depuis longtemps. Est-ce qu'il m'entend?
Oui, très bien,
Très bien,
Pierre.
parfait. Et alors, auparavant, je voudrais vous, chers amis, vous dire que la dernière parution de la nouvelle revue universelle est sortie. Donc, c'est le numéro 82-83 qui tient lieu de premier trimestre 2026. Je ne saurais trop vous recommander la nouvelle revue universelle. Vous savez que l'abonnement est à 80 euros, la revue elle-même est à 18 euros. Et c'est remarquable. Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas 3 000, 4 000, 5 000 abonnés à la Revue Universelle. Ça devrait être la préoccupation première des intellectuels français dans la mesure où ils ont encore le sens national. On y trouve des articles de Philippe Ariès, de Philippe Lallemand, de Gérard Leclerc, évidemment de notre ami Christian Franchet-Dépéré, qui en a été longtemps le rédacteur en chef. Et puis le dernier numéro de Politique Magazine, que je n'ai pas entre les mains, mais qui est du mois d'avril, vient juste de sortir, et vous allez le recevoir pour ceux qui sont abonnés au cours de la semaine là, qui vient. Et ce numéro est également extrêmement intéressant sur l'actualité, qui vous savez est très chaude, et dont nous allons précisément parler avec le général Faugère. Alors, le sujet de ce soir, c'est la défense nationale, évidemment, et c'est à l'occasion de la parution d'une brochure qu'a édité le Cercle Vauban, dont j'ai eu l'occasion de parler à plusieurs reprises ici même. Le Cercle Vauban fait des études, une série d'études. Il y en a déjà un certain nombre de parues sur la monarchie, sur les institutions, sur l'éducation nationale, sur la souveraineté numérique qui va paraître prochainement, sur la réindustrialisation de la France. Et donc, il y a une brochure qui vient de paraître, elle est juste sortie ces jours derniers, et elle s'intitule La défense, un impératif national. Alors, c'est une brochure exactement de 106 pages, et cette brochure est un récapitulatif de nos lois de défense, de nos principes, et surtout, c'est une critique hein, de la manière dont elle est conçue aujourd'hui. Et elle vise les insuffisances dans lesquelles nous sommes et qui se font cruellement sentir dans la situation internationale actuelle. Alors, je voudrais vous dire dans un premier temps que cette brochure que je trouve, pour ma part, absolument remarquable, et vous devinez que le général en est l'inspirateur, elle est d'une très grande clarté, nous allons en parler, et vous pouvez vous la procurer en écrivant, alors je donne les moyens les plus simples, il suffit d'écrire un petit mot au 1 rue de Courcelles, 7508 Paris, hein, 1 rue de Courcelles, 7508 Paris, vous mettez soit Cercle Vauban, soit Politique Magazine, soit la Nouvelle Revue Universelle. Et c'est aussi à cet endroit-là que vous pouvez demander un abonnement ou tout simplement une revue, selon ce que vous souhaitez. Et d'autre part, vous pouvez téléphoner à notre ami qui va s'en charger de la diffusion, qui s'appelle Henri Baclay, qui est le directeur de Politique Magazine. Je vous donne son numéro de téléphone, 06 45 21 97 57. 06 45 21 97 57. Et vous l'appelez et vous lui demandez, il vous enverra une brochure. Alors la brochure, c'est 15 euros frais de port compris. Donc on vous l'envoie pour 15 euros. J'ose dire que c'est donné. Pour 15 euros, vous avez une brochure absolument remarquable sur l'état actuel de la défense en France, en particulier en Europe et dans le monde. Alors, il y a d'autres brochures du Cercle Vauban dont je vous ai donné quelques titres et toute une série vont paraître prochainement sur, je voulais dire, réindustrialisation de la France, la souveraineté numérique et tout ça est évidemment lié, les institutions, la diplomatie, etc., tous les grands sujets et qui permettent de se faire une idée claire par évidemment, des personnes parfaitement compétentes qui sont à l'initiative de ces brochures et qui permettent de se faire une idée parfaitement claire de la situation actuelle, en particulier de la France et de l'état politique dans lequel nous nous trouvons dont chacun peut apprécier les déficiences aujourd'hui et qu'elles sont considérables, tant sur le plan sécuritaire, comme on dit d'une manière générale, que sur le plan de la défense elle-même. Alors maintenant, je me tourne vers le général Faugère. Mon général, donc j'ai pris connaissance de cette plaquette et je vous interroge sur son contenu. Alors, quel est, d'abord, dans un premier temps, pour que nos auditeurs comprennent le sujet que nous abordons, comment résumeriez-vous aujourd'hui l'état en France de la défense nationale, le système institutionnel dans son cadre européen, éventuellement otanien, et puis dans le cadre international avec les accords de défense? Comment pourriez-vous résumer en quelques mots la situation actuelle?
Bien, c'est un exercice assez complexe finalement de résumer en
Oui,
quelques
bien
mots
sûr, bien sûr.
la situation de la défense de la France dans le contexte du jour, comme chacun sait, qui est assez ébouriffant par certains endroits. Alors même que la France manque, à mon avis, d'une vision prospective et stratégique qui n'est pas à la hauteur de ce que représentait la France par le passé, ou ce qu'elle devrait représenter encore aujourd'hui dans ce monde assez multipolaire et éclaté. Donc concernant effectivement la défense nationale, elle est parfaitement définie dans des textes officiels qui sont tout d'abord la Constitution de 1958, celle qui fonda la Ve République, qui définit les prérogatives du président de la République, du gouvernement, du Parlement sur ces questions de défense nationale. Et cette constitution est complétée par l'ordonnance de 1959 portant organisation générale de la défense qui, elle, rentre dans davantage de détails. Elle précise en effet que la politique de défense est définie en Conseil des ministres et que sous l'autorité du Premier ministre, puisque il est responsable de la défense nationale. Sachant que le président de la République, pour sa part, qui est le chef des armées, il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, du respect des accords, de communautés et des traités. Ceci, ce sont donc les textes fondateurs de l'institution de défense aujourd'hui. On peut noter déjà, et je m'appuie là-dessus sur des analyses de constitutionnalistes avertis, qu'il y a déjà une certaine ambiguïté entre le rôle du président de la République et du Premier ministre
Oui.
sur ces questions de défense. Et on sait depuis l'ère gaullienne, finalement, que les questions de défense comme des affaires étrangères étaient qualifiées comme étant le domaine réservé des présidents de la République. Alors, c'est j'allais dire, une appréciation qui pourrait contredire les textes, aussi bien l'ordonnance de 59 que la Constitution de 58. Et nous vivons avec cette ambiguïté, bon, qui ne pose pas de grands problèmes, de toute façon, aux armées, même en période de cohabitation que nous avons connue par le passé.
Chaque président a toujours revendiqué cette particularité,
Tout à fait.
cette spécificité. Donc,
Tout à fait.
c'est un domaine réservé à la présidence de la République, comme d'une manière générale la diplomatie,
Voilà.
qui va avec, d'ailleurs.
C'est ça. Alors, les questions de défense, effectivement, c'est un problème interministériel parce que ça concerne beaucoup de ministères, celui des armées ou de la défense autrefois, le ministère des Affaires étrangères, évidemment, le ministère de l'Intérieur pour les questions de sécurité intérieure où les armées pourraient intervenir, les questions économiques. Donc, c'est assez vaste, finalement, comme sujet de préoccupation. Tout ceci étant coordonné, donc, par le chef du gouvernement, le Premier ministre, et les actions qui sont mises en œuvre s'opère sous le contrôle du Secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale, le SGDSN, qui effectivement vérifie que la politique de défense est bien appliquée. Alors, toutes ces dispositions sont contenues d'ailleurs dans un texte qui s'appelle le Code de la Défense,
Oui.
et qui récapitule effectivement les prérogatives des uns et des autres. Alors, on pourrait se demander à un moment donné, selon la présidence ou selon un gouvernement, existe-t-il un texte définissant la politique de défense? Puisque c'est le
Oui,
chef du
oui.
gouvernement qui l'a défini. Or, force est de constater qu'il n'y a pas vraiment de document majeur constituant la réalité d'une politique de défense. Alors, nous avons bien le président de la République qui préside les conseils de défense et qui précise d'ailleurs au sein de ces conseils, dont les conclusions sont classifiées secret défense. Le président de la République précise ses orientations et ses décisions en politique étrangère et en matière de défense. Mais celles-ci ne sont pas expressément rendues publiques. On peut constater d'ailleurs que l'actuel président, M. Macron, multiplie les conseils de défense
Défense, oui, pratiquement, il y en a maintenant toutes les semaines,
sérieux.
oui,
Voilà.
voire
Alors,
tous
ça a
les
commencé
jours,
un peu avec l'épisode de la Covid,
oui.
mais ça se poursuit, surtout le problème important. Maintenant, il y a conseil de défense, ce qui permet effectivement de prendre des décisions dont le contenu n'est pas toujours explicité au commun des mortels. Alors, pour pallier quand même cette carence en matière de documents officiels, on a trouvé finalement un biais assez intelligent et adroit, qui est que régulièrement, le président de la République ou le Premier ministre peuvent réunir une commission,
Oui.
la dite du livre blanc sur la défense, dont le nom a évolué au fil des ans. Aujourd'hui, nous avons quatre livres blancs qui ont
Oui.
été déjà décrits en 1972, en 1994. Alors, 1972, il s'agissait de prendre en compte le fait nucléaire, puisque la France était dotée d'une force de frappe nucléaire, lancée d'ailleurs par la 4e République et reprise par le général de Gaulle à son arrivée en 1958. Le livre blanc de 1994 prenait en compte effectivement la disparition du pacte de Varsovie et donc la chute du mur de Berlin. Et également clarifier la position officielle sur le service national qui devait perdurer. Bon, on sait que 2 ans après l'apparition de ce livre blanc, le président Chirac a décidé de suspendre la conscription et d'aller vers une armée de métier. Ensuite, nous avons eu un livre blanc en 2008 sous Nicolas Sarkozy qui s'intitulait Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale, et qui montrait que l'expression d'un nouveau concept qui était celui d'une stratégie de sécurité nationale qui associait, sans les confondre, la politique de défense, la politique de sécurité intérieure, la politique étrangère, la politique économique. Et en particulier, ce livre blanc prenait en considération le phénomène de mondialisation et la professionnalisation des armées, ainsi que le contexte de sécurité intérieure qui
Oui,
devenait
les
un
attentats,
problème.
les
Voilà, la suite des attentats, effectivement. Donc, et enfin, en 2013, le dernier livre blanc paru sous François Hollande, décidé donc de la rédaction d'un nouveau livre blanc, prenant prétexte d'évolutions mondiales importantes depuis 2008, avec le renforcement des menaces, puisque ce livre blanc comporte une première partie sur l'analyse des menaces et après sur l'organisation de la défense, les missions des armées, éventuellement dans leur contrat opérationnel et leur organisation. Et à l'issue de son analyse, M. Hollande décidait finalement de réduire les formats des armées et la dimension de leur contrat opérationnel. Bien, je ferme
Non,
cette parenthèse.
mais ça a été le cas à chaque fois, pratiquement.
C'était le cas à chaque fois, oui,
Et
depuis
pas
1900. Oui, depuis.
c'est.
Oui, tout à
Vous
fait.
allez nous donner quelques chiffres à ce sujet-là, mais ce qui
Voilà,
me
je
frappe
reviendrai tout à
surtout,
l'heure.
c'est que pratiquement, et ça ressort de façon très évidente de la brochure dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est que dans le fond, les militaires étaient extrêmement peu sollicités dans cette conception générale. Qui relevait davantage des hommes politiques, des administrateurs, des considérations budgétaires, notamment de Bercy, évidemment, et que les militaires, de plus en plus, ont été réduits, on va dire, à un rôle de technicien. Ils étaient chargés de rentrer dans le cadre qu'on leur définissait, avec les moyens qu'on leur allouait, et à mon avis, toujours réduits, d'après ce qu'on comprend et d'après ce qu'on lit, toujours réduits. Ce
Oui,
que
tout à
vous
fait.
faisiez
Alors,
avec 5 000 hommes, vous allez le faire avec 2 500.
voilà. Alors, j'y reviendrai tout à l'heure quand on parlera
Oui.
de l'état actuel des armées. Effectivement, nous avons vécu des vents de réforme qui ont duré 30 ans. Mais avant, je voudrais continuer sur notre politique
Oui.
de défense qui s'intègre quand même dans ce qu'on appelle aujourd'hui une défense et une sécurité collective qui fait que la France appartient encore à l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN, pour la sécurité collective. Et qu'elle est membre également de l'Union européenne, qui comporte une clause d'ailleurs d'assistance entre les États membres, l'article 42.7, qui finalement correspond un peu à l'article 5 de l'OTAN, qui engage un pays membre ou de l'OTAN ou de l'UE d'intervenir à la limite militairement lorsqu'un État membre est agressé. Donc, ces alliances sont quand même importantes, même si M. Trump décide que l'OTAN finalement n'est plus son souci majeur. Il faut quand même reconnaître que la participation des Européens au sein de l'OTAN est assez modeste. On parlera peut-être des chiffres tout à l'heure, des effectifs et des budgets, mais il faut reconnaître que l'OTAN, c'est principalement les États-Unis et l'assurance de leur parapluie nucléaire en particulier. Alors, que va devenir l'OTAN dans les années qui viennent, dans les mois qui viennent? On ne sait pas trop. Ça dépendra effectivement des décisions de M. Trump, mais il faut reconnaître que concernant l'Union européenne ou nos partenaires européens, l'OTAN a été un prétexte pour ne pas effectivement, dans cette période de post-guerre froide, investir massivement sur les armées et sur la question de la défense,
Depuis la
des défenses
dissolution du
nationales.
pacte de Varsovie, on
Voilà, alors
considérait
cette
qu'il n'y avait
dissolution du
plus de
pacte de
menace.
Varsovie, voilà, devait nous faire entrer dans une ère de paix perpétuelle. Et on sait qu'avec l'agression russe sur l'Ukraine de 2022, l'Union européenne et les États membres européens se réveillent brutalement et effectivement font le constat que leurs armées ne sont pas à la hauteur des enjeux du jour. Alors on y reviendra peut-être tout à l'heure,
Oui.
parce que c'est important de noter effectivement les évolutions en cours sur ce sujet. Alors, il faut bien reconnaître quand même que autrefois, depuis le général de Gaulle, qui avait décidé en 1966 de sortir la France de l'organisation du commandement militaire intégré, faisait que la France était un peu en position particulière au sein de l'OTAN. Cette position particulière donnait une certaine autonomie, voire indépendance de la politique française par rapport à celle de l'OTAN, qui était évidemment impulsé uniquement par les États-Unis. Et les États membres de l'OTAN, les États européens membres de l'OTAN, étaient bien contents de se retrancher derrière effectivement ce parapluie américain pour éviter d'en faire trop. Alors tout ceci est profondément bouleversé depuis 2022 et nous voyons un retour en force effectivement des soucis de
Oui.
défense en Europe, et particulièrement au sein de l'Union européenne. Union européenne dont il faut rappeler d'ailleurs que dans le traité de Lisbonne, les questions de défense restent du domaine propre des États.
Encore que récemment, Ursula von der Leyen vienne de créer un poste de commissaire
Oui, tout à fait.
à la
Alors,
défense.
oui, alors il y a effectivement M. Kubilius, qui est un Lituanien, si j'ai bonne mémoire, a été nommé par Madame von der Leyen commissaire européen à la défense et à l'espace. Bon, c'est une fonction qui n'est pas explicite dans le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne suite au traité de Lisbonne et qui effectivement pose un peu question aujourd'hui par le fait que on voudrait sans doute, je pense, pousser le fédéralisme européen en agitant des menaces extérieures qui pèseraient sur l'ensemble de l'Union européenne et de ses États membres pour aller vers une Europe fédérale.
Et pour
Et on
accélérer le
commence à
processus.
parler, voilà, et on commence à parler, alors plus ou moins timidement, avec plus ou moins d'ailleurs de pertinence, d'une armée européenne qui, à mon avis, n'a aucun sens dans le cadre actuel de l'Union européenne, parce que cette question de souveraineté européenne qui est très souvent mise en avant, notamment par les présidents français successifs
Oui,
et surtout
surtout
l'actuel,
Macron.
n'a pas de fondement juridique. C'est-à-dire que les questions de souveraineté valent sur le plan juridique pour un État ou une nation. Or, l'Union européenne n'est absolument pas un État et encore moins une nation. Donc, cette irruption de la Commission avec Madame von der Leyen sur les questions de défense peut poser quand même un problème, j'allais dire, de la Constitution européenne telle qu'elle a été décrite à sa création avec le traité de Lisbonne.
Mais en réalité, c'est une volonté de prospective.
Oui,
C'est
c'est
ce
prospectif
qu'ils
parce
veulent
que.
créer, et Macron est totalement complice de cette idée,
Oui.
et qu'il verrait bien lui-même assumer d'ailleurs. Oui,
Je ne sais
je
pas ses
pense,
intentions
je
personnelles,
pense.
mais je crois qu'il souhaiterait. D'ailleurs, son récent discours sur la
Oui,
dissuasion nucléaire
dont on va
avancée,
parler. Oui, dont on va parler tout à
on en
l'heure.
parlera peut-être tout à l'heure, est un pas dans cette direction. Alors maintenant, pour revenir à cette Europe de défense, elle ne peut se prévaloir aujourd'hui d'aucune existence militaire crédible. C'est-à-dire même quand vous faites la somme des armées européennes, vous arrivez à des chiffres peut-être impressionnants en termes d'effectifs, puisque ça ferait plus de 2 millions d'hommes, mais si vous voulez, c'est complètement disparate, hétérogène, ça n'a pas de cohésion, il n'y a pas d'exercice d'ailleurs rassemblant toutes ces nations en matière opérationnelle. Et donc, on voit bien que cette Europe de défense n'a pas d'existence concrète et réaliste. Et
Peut-être des
d'ailleurs,
états-majors, il y a peut-être des
il y a un
états-majors
état-major de l'Union
en
européenne, mais qui
Ukraine.
n'est pas un état-major,
Oui.
j'allais dire, à vision d'engagement opérationnel.
Oui.
C'est plutôt un état-major qui fait de la prospective et de la stratégie de manière générale, mais il n'a pas pouvoir de commander une armée européenne, si vous voulez, ou même un ensemble d'armées en coalition au sein de l'Union européenne. Alors, les États ont partagé, notamment dans le cadre de l'OTAN, mais qui vaut aussi dans le cadre de l'Union européenne, un certain nombre d'états-majors, en général du niveau corps d'armée d'ailleurs, c'est-à-dire inférieur au niveau de l'armée, qui sont censés pouvoir regrouper des unités opérationnelles de plusieurs États membres. Mais là aussi, s'il y a des entraînements de temps en temps de ces états-majors, en termes de PC opérationnel, il n'y a pas de mise à disposition automatique de force pour tel ou tel scénario d'emploi. Donc tout ceci reste totalement putatif. Alors on pourrait opposer qu'on a quand même fabriqué un certain nombre d'outils dans le cadre de l'Union européenne. Je pense par exemple à la brigade
Oui,
franco-allemande créée au
qu'est-ce qu'elle
Centre
devient,
d'Alsace.
cette brigade? Qu'est-ce qu'elle...
Elle existe toujours, mais enfin, elle soulève peu d'enthousiasme, aussi bien du côté des militaires français que du côté des militaires
Oui.
allemands. Elle est à cheval sur la frontière franco-allemande. C'est une brigade, c'est-à-dire niveau de 8 000 hommes. Vous avez également le corps européen de Strasbourg, qui est
Oui.
un corps de niveau corps d'armée, qui regroupe, alors à l'origine, c'était la France, l'Allemagne et l'Espagne. Et depuis, on a agrégé un certain nombre d'autres États membres, dont la Pologne. Mais c'est jamais qu'un PC, si vous voulez. Il n'y a pas de force qui soit dédiée à ce PC en cas de conflit ou d'intervention militaire de l'Union européenne. Donc l'Union européenne, d'ailleurs, intervient de manière très modeste sur des
Oui,
conflits. En
oui.
général, c'est pour faire de la formation. En Afrique, par exemple, on a fait ça au Mali, ces dernières années. Mais il n'y a pas vraiment d'unité constituée opérationnel de l'Union européenne engagé dans un conflit même mineur. Alors, il y a aussi un comité militaire au sein de l'Union européenne qui regroupe tous les chefs d'état-major des États membres. On a mis, je vous l'ai évoqué tout à l'heure, sur pied un état-major de l'Union européenne. Il y a quand même la création de l'Agence européenne de défense qui est censée stimuler les coopérations d'armement entre les différents États membres, effectuer les mutualisations capacitaires, voire des partages capacitaires entre les États, pour essayer de constituer un outil plus cohérent et moins dispersé qu'aujourd'hui. Mais tout ceci ne marche pas à marche forcée, si vous voulez. C'est plutôt des réunions,
Oui, c'est ça, où
des
on
documents
parle, on parle. Oui,
déclaratoires
bien sûr, oui.
qui ne recouvrent pas une réalité opérationnelle
Neuf.
très concrète. Alors, on a quand même institué une coopération structurée permanente qui a été mise en place avec le traité de Lisbonne en 2018 avec 17 projets de coopération. Mais quand vous regardez ces 17 projets de coopération, il n'y a pas grande cohérence
Oui,
capacitaire ou opérationnelle entre tous ces sujets. Donc, tout ceci reste un peu de la gesticulation censée montrer que cette Europe de défense
existe.
se construit de manière finalement assez laborieuse.
Et qu'est-ce qu'il en
Voilà
est des
pour
projets communs d'armement? Le
alors les
SCAF,
projets communs d'armement, eh bien nous en avons
le
quelques-uns.
char.
Alors la France a un statut particulier, si vous voulez, parce qu'on avait des compétences dans tous les secteurs
Oui.
industriels, y compris nucléaire d'ailleurs, il ne faut pas l'oublier. Et ces compétences nous sont effectivement enviées et jalousées par d'autres États, modestement quand
Et
ce
prise
sont des
même.
pays,
Non?
voilà,
Oui.
modestement quand ce sont des pays comme l'Espagne ou l'Italie. Mais l'Allemagne, surtout avec le chancelier Friedrich Merz, a
Oui.
de grandes ambitions, lui, de récupérer effectivement à son profit, et il ne s'en cache pas d'ailleurs, tout le savoir-faire industriel français. Ils nous ont déjà quasiment privés
Oui.
de la société Airbus, qui
Oui.
était l'ancienne aérospatiale, l'ancienne EADS. Ils ont fait la même chose avec les armements terrestres, Giat Industries, puis Nexter, qui est passé sous la coupe de KNDS, en association avec Crossmafai. Et on voit
Les
que
hélicoptères
maintenant, le
également.
leader industriel, c'est l'Allemagne.
Voilà.
Et ses ambitions sont assez grandes, justement, avec le commissaire européen, Emmanuel van der Leyen, pour que, finalement, s'il devait se passer des choses de manière très solide et concrète, eh bien, ça se fasse sous une tutelle qu'on pourrait qualifier d'allemande. Alors, ce n'est pas un parti pris que je prends ici, c'est la réalité concrète des interventions des uns et des autres sur tous ces sujets. Si vous voulez, ce n'est pas une vue de l'esprit, ce n'est pas une élucubration intellectuelle. Alors, à côté de cette OTAN un peu en perdition aujourd'hui et de cette défense européenne qui peine quand même à se constituer, nous avons la France noué un certain nombre d'accords de défense avec des partenaires, alors qui étaient essentiellement africains jusqu'à un passé récent, jusqu'à l'été 2025 finalement, ou l'année 2025, où la plupart de ces accords de défense ont été dénoncés par les pays africains avec lesquels nous étions liés, que ce soit le Mali, le Burkina Faso, la Côte
Tout,
d'Ivoire, le
tout, le
Sénégal.
Tchad, tout, oui.
Donc voilà, alors nous avons encore des accords de défense avec les Émirats arabes unis, qui sont d'actualité aujourd'hui, compte tenu du conflit au Moyen-Orient. Et nous avons également un accord de défense, voilà, pour 10 ans, conclu en 2023 avec l'Ukraine, qui consiste en des actions de financement et de livraison de matériel militaire. Donc effectivement, ces traités ou ces accords de défense nous obligent, même s'ils sont de temps en temps, je veux parler de l'Ukraine essentiellement, une source finalement d'évaporation de nos propres capacités en termes de système d'armes. Puisque nous avons quand même laissé à l'Ukraine un certain nombre de canons César, de missiles solaires moyenne portée SAMPT, de lance-roquettes uniques, et puis évidemment des munitions afférentes avec tous ces matériels que nous leur avons livrés. Et la reconstitution de nos unités n'est toujours pas définitive à l'heure actuelle. Donc voilà pour ces accords de défense. Alors je passe sous silence tous les accords sur les armes conventionnelles que nous avons signés, de maîtrise des armements, également les accords sur les armements nucléaires que nous avons signés, sur les traités de non-prolifération. Voilà. Alors tout ceci pour nous dire, finalement, qu'est-ce que la souveraineté en matière de défense? Alors on serait soucieux, effectivement, que la France soit souveraine dans ce domaine-là. Alors je pense qu'elle est souveraine en matière d'analyse des situations, de décision d'intervention ou non. Mais elle est un peu moins dans ses dépendances industrielles, puisque pour fabriquer nos propres armements, nous sommes quand même lourdement tributaires des achats que nous produisons à l'étranger, alors soit en zone de l'Union européenne, soit vis-à-vis des Américains, soit vis-à-vis d'autres nations mondiales, et en matières premières, en métaux critiques, en terres rares, en composants électroniques, en logiciels informatiques. Nous avons quand même de fortes dépendances extérieures qui fait dire que notre souveraineté industrielle en matière de défense n'est quand même pas acquise et qu'on est obligé donc soit de diversifier nos sources d'approvisionnement pour parer à d'éventuelles
Bien sûr.
carences, soit de faire avec les dépendances que nous avons consenties sur ce sujet-là, même si l'industrie de défense française est capable de fournir tous les armements, mais avec toutes ces contributions que je viens d'évoquer en matière première et ainsi de suite. Donc c'est quand même une limite à notre souveraineté qui n'est pas exposée toujours comme ceci, mais qui est bien réelle. Voilà, on le sent déjà avec le pétrole russe depuis le conflit
Bien sûr.
russo-ukrainien, hein, où nous sommes tributaires maintenant de coûts d'énergie relativement exorbitants du fait de l'interdiction que nous avons de commercer avec les Russes. Alors que les États-Unis, on peut le noter d'ailleurs récemment, avec M. Donald Trump, a repris le commerce avec la Russie. Mais ils entendent toujours maintenir les membres de l'Union européenne sous tutelle en leur interdisant d'opérer avec cet acteur russe.
Alors,
Voilà donc pour cette question du cadre.
aujourd'hui, quel est l'état réel de nos capacités? Qu'est-ce qu'il en est
Alors,
des dernières lois, notamment des lois de programmation? Celle qui est en
oui.
cours, là, qui va apparaître devant le Conseil des ministres demain ou après-demain, là,
Oui, tout à fait.
j'en ai lu un résumé tout à l'heure. Est-ce que on sent une amélioration effective, d'après les dires du président lui-même et puis du Premier ministre, comme quoi la France est en train de reprendre la main sur sa propre défense, sur ses armées, et que elle va consacrer une part extrêmement importante de son budget. Quelle est la
Oui.
réalité des chiffres, aussi bien du côté des troupes que du côté des budgets?
Voilà, alors cette question est
Parce que
aussi
vous, c'est
compliquée
abordé
parce
dans la
que,
brochure dans question. Oui.
voilà, donc si, en fait, il y a deux sujets. Avant de parler des finances et des budgets, il faut parler de l'état actuel des armées en
Bien
termes
sûr.
d'organisation. Alors, il faut reconnaître que depuis la chute du pacte de Varsovie, la dissolution du pacte de Varsovie, les armées ont subi 30 ans de réformes continues qui s'engageaient les unes après les autres, sans même attendre d'ailleurs que la précédente ait fourni ses conclusions de pertinence ou non. Alors, ça s'est passé en plusieurs étapes, hein. Déjà, avec la disparition du pacte de Varsovie, on a perdu un certain nombre d'unités terrestres. Déjà, tout le deuxième corps d'armée qui était déployé en Allemagne a disparu du jour au lendemain. Ça s'est fait de pair d'ailleurs avec la disparition de la conscription. Donc, c'est passé relativement inaperçu du citoyen français, mais on a perdu quand même à l'époque quasiment le tiers des forces terrestres. Concernant l'armée de l'air et la marine, ça a été pareil. On a fermé un nombre de bases importantes, on a diminué les effectifs de nos matériels, les cibles des matériels majeurs, les avions, les navires de premier rang pour la marine. Donc tout ceci a fondu depuis 30 ans, au prétexte justement qu'il n'y avait plus d'ennemis à nos frontières, de menaces existentielles, et qu'on pouvait donc, sous la pression budgétaire et des déficits publics, faire des économies drastiques sur le dos des armées.
C'est ça,
Donc
c'est.
cela.
J'insiste auprès de nos auditeurs sur ce que vous venez de dire. C'est-à-dire, c'était extrêmement facile de faire des économies sur le dos des armées, parce que
Oui.
personne n'était en état de protester véritablement. Et
Voilà.
pendant ce temps-là, on faisait du gaspillage dans tous les autres postes, que ce soit l'éducation nationale, la fameuse politique de la ville, où on a dépensé des milliards. Et dont on voit les résultats aujourd'hui, qui sont, semble-t-il, à mon avis, pas du tout satisfaisants. Donc là, on a pris des risques considérables sur l'avenir, parce que ça ne se rattrape pas, d'après ce que je comprends et d'après ce que vous
Voilà,
allez
non,
nous dire.
effectivement, voilà, le réveil est assez brutal, effectivement, aujourd'hui, où finalement, on serait presque tenté de mettre en balance un effort de défense avec les dépenses à caractère social.
Voilà, c'est ça.
Alors, effectivement, la défense, c'est assez simple de la brimer, si je puis dire, financièrement, puisque d'abord, les armées ne sont pas syndiquées. Donc, les syndicats des armées, c'est leur propre chef d'état-major, bon, qui sont quand même peu entendus. Et puis qui répugne souvent à aller se plaindre. Je me souviens d'ailleurs d'une certaine phrase de M. Chirac qui disait que comment, avec tout ce qu'on vous a donné, vous êtes en train encore de vous plaindre de ne pas avoir assez de quoi faire. Donc voilà, il y a cet aspect-là, effectivement. Ensuite de ça, la défense, les armées sont le premier investisseur de l'État. Et donc les investissements, c'est les programmes d'infrastructure ou les programmes d'armement, majoritairement les programmes d'armement d'ailleurs. Donc, il est plus facile de réduire un programme
Bien
d'armement,
sûr.
ça ne fait pas de bruit. L'industriel, lui, se rattrape en augmentant les coûts unitaires des commandes
Bien sûr,
restantes,
bien
qui
sûr.
grimpent effectivement en flèche à cette occasion.
Bien sûr.
Donc, c'est assez simple d'avoir cette pression.
Construire deux
Et
frégates, ça coûte plus
finalement,
cher que d'en construire six, bien sûr.
voilà, parallèlement à cette brimade, si je puis dire, de portée financière, on a réformé l'organisation des armées. Avec deux périodes, la nouvelle organisation financière de l'État, avec ce qu'on appelait la LOLF, la loi organique relative aux lois
Oui.
de finances, qui a proprement dépossédé les chefs d'état-major des responsabilités budgétaires pour les placer au niveau du ministère sous la direction effectivement directe du cabinet du ministre et d'un haut fonctionnaire civil.
Et par
Et
conséquent de
nous
Bercy.
avons,
Et par conséquent de
voilà.
Bercy.
Et la deuxième vague de ces organisations.
Concrètement, c'est un énarque qui dé... enfin, ce sont une bande d'énarques qui ne savent pas manier un pistolet, qui sont chargés de
Oui.
définir une politique de défense pour la France. Oui. Moi,
Si vous
ça
voulez, ce
m'a
qui vous
toujours
est.
révolté quand j'étais moi-même dans
Oui.
l'armée. Je tentais d'expliquer ça aux officiers de marine avec qui je discutais.
Si vous voulez, pour moi, ce n'est pas choquant que ce soit un haut fonctionnaire, que ce soit directeur des affaires financières du ministère. Mais encore faut-il que les chefs militaires soient écoutés dans leur appréciation,
Bien sûr.
effectivement, des équilibres budgétaires et des besoins opérationnels. Or, toutes ces réformes, finalement, avaient pour objectif, et on l'a bien vu, c'était la sécularisation des armées. C'est-à-dire que ce ministère était réputé être sous la tutelle des chefs militaires et ça devenait odieux dans le contexte du jour, depuis une trentaine d'années, de voir ces militaires avoir des responsabilités qui dépassaient finalement l'aspect technique de leur fonction.
Oui.
Car j'ai beaucoup discuté avec des hauts fonctionnaires, moi, dans certains de mes postes, et on nous rabattait toujours les oreilles en disant, vous, finalement, vous avez un travail technique, c'est les opérations. L'entraînement opérationnel, les opérations. Donc les chefs militaires ne doivent s'occuper que de ça. Pour le reste, les ressources, c'est les autorités civiles du ministère, avec Bercy, qui vous les octroie. Alors, on a effectivement organisé ce ministère de la Défense comme une entreprise, avec une organisation matricielle. En verticale, si je puis dire, vous avez les trois chefs d'état-major et le chef d'état-major des armées qui expriment des besoins. Et pour y répondre, il y a une organisation horizontale qui est la direction des affaires financières, la direction des ressources humaines et qui vous octroie, et la délégation générale pour l'armement qui vous octroie les moyens.
C'est ça.
Alors effectivement, dans toute organisation matricielle, finalement, vous n'avez plus de responsable. C'est la dilution des responsabilités. Parce que quand les chefs militaires se plaignent, on leur répond qu'ils ont mal exprimé leurs besoins. Et quand c'est le tour du secrétariat général pour l'administration de répondre, il explique, bah, de toute façon, il fait qu'avec ce qu'il a, et il ne peut pas donner plus aux armées qui en expriment trop de besoins. Enfin voilà, donc sincèrement, dans cette organisation matrielle, matricielle, il n'y a plus de vrais responsables. Et c'est ça vraiment le problème
Oui.
qui pèse aujourd'hui sur le fonctionnement des armées et qui handicape un peu. Dans une remontée en puissance qu'on voudrait voir aujourd'hui face à un conflit éventuellement de haute intensité, pour avoir une certaine réactivité et une disponibilité immédiate de nos forces.
C'est très
Alors,
clair. Je suis obligé de
voilà.
vous interrompre quelques minutes parce
Oui.
qu'on a un monsieur qui s'appelle Bobino et qui doit intervenir. À monsieur Bobino.
Vous aimez Radio Courtoisie, mais vous n'avez jamais, jamais donné, même pas 5 euros. Arrêtez de laisser payer les autres à votre place. Faites un don maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 Boulevard Murat, 75 016, Paris. Et vous verrez, vous vous sentirez mieux.
Voilà, nous reprenons. Merci infiniment pour vos explications. Elles sont très claires. Je lis deux interventions. Bonsoir, merci pour cette émission très intéressante et je voudrais savoir si l'armée française est capable à l'heure actuelle de prendre l'île de Kharg pour sécuriser le détroit d'Ormuz face aux raquettes de l'Iran, bien courtoisement. Et puis un autre, bonsoir, la France aujourd'hui en cas de conflit pourrait aligner combien de chars, d'avions, de divisions opérationnelles, bien courtoisement? Voilà, les
Oui.
questions que se posent nos auditeurs.
Bon, ce sont des questions très concrètes,
Oui.
effectivement, en termes de capacité autour des moyens dont disposent les armées. Moi, je vais vous citer effectivement les capacités d'aujourd'hui des armées françaises. Alors, commençant par l'armée de terre, par exemple, l'objectif aujourd'hui du général Schill, chef d'état-major de l'armée de terre, c'était d'avoir en 2025 la capacité de projeter à l'extérieur du territoire une brigade interarmes des forces terrestres. Une brigade, c'est 8 000 hommes. Et le second objectif de ce chef d'état-major, c'est d'avoir en 2027 la capacité de projeter une division. Une division, c'est-à-dire entre 20 000 et 24 000 hommes. Donc voilà les capacités aujourd'hui de l'armée française. Donc on est entre 2025 et 2027. Donc aujourd'hui, nos capacités, c'est une brigade, alors que nous en avons sept quand même interarmes. Ce qui laisse supposer effectivement qu'en termes soit d'entraînement, soit de disposition des systèmes d'armes, soit de disponibilité des munitions, des ressources de recomplètement en munitions, en pièces détachées pour les engins qui seraient détériorés, nos capacités sont quand même assez réduites après des années effectivement de coupes budgétaires. Donc remonter la pente pour avoir
Bien
une
sûr.
armée opérationnelle
Bien
va
sûr.
prendre, à mon avis, au moins 2 à 3 lois de programmation militaire, c'est-à-dire entre 10 et 20 ans.
Bien sûr. Il faut 20
Voilà.
ans, bien sûr.
Alors, pour l'armée de l'air, c'est à peu près la même chose. Elle dispose d'un certain nombre d'aéronefs avec l'avion Rafale et encore quelques Mirages. Je crois que c'est autour de plus de 180 aéronefs. On est loin des 400 qu'on avait du temps de la guerre froide. Quant à la marine qui a des navires dits de premier rang qui ne sont jamais que des frégates,
Oui.
avec le porte-avions et 5 sous-marins nucléaires d'attaque, là aussi, les ressources sont quand même assez modestes. Les
Très,
ressources sont quand même assez
très
modestes.
modeste, très modeste.
Voilà. Surtout quand on sait, concernant la marine, que nous avons quand même la deuxième zone exclusive
Oui.
du monde, avec plus de 10 millions de mètres carrés, avec toute possession d'outre-mer. Vous voyez qu'on a quoi, une dizaine de bâtiments de premier rang qui sont capables de prendre la mer. Et je suppose d'ailleurs qu'à un instant T, il y en a un certain nombre qui sont en maintenance dans des ports et qui ne sont pas donc disponibles dans l'immédiat. C'est un peu le cas du porte-avions aussi. C'est pour ça que le porte-avions, sincèrement, il en faudrait deux. À partir du moment où on décide que c'est un outil indispensable pour la défense de la France, il faut avoir une permanence à la mer de ce type d'outils. Or, ce n'est pas le cas, puisque le porte-avions est pris assez régulièrement dans des maintenances parfois assez lourdes qui peuvent durer jusqu'à une année et demie de travaux. Bon, il se trouve qu'aujourd'hui, il est opérationnel, il est en Méditerranée d'ailleurs. Voilà, donc nous avons quand même une remontée en puissance extrêmement sévère à effectuer, mais la France n'est pas isolée dans le contexte européen. Toutes les armées en
Bon, on
sont
l'a
à
bien
ce
vu pour
niveau-là.
l'Angleterre récemment, oui. Elle est dans
Voilà.
un état pitoyable, elle aussi, oui.
Exactement. Et pourtant, les Anglais, on verra peut-être quelques chiffres tout à l'heure, mais les Anglais ont un budget de la défense qui dépasse très largement le nôtre.
Oui.
Et ils ont une dissuasion nucléaire qui leur coûte un peu moins cher puisqu'ils
Parce
n'ont
que...
qu'une seule composante. Donc, alors si on en vient en termes d'effectifs, aujourd'hui, si vous voulez, en 2025, les militaires sous les armes représentent 219 000 hommes et femmes.
Tout compris,
Tout compris.
toutes les armées.
Toutes les armées. Alors, il y en a 112 800 pour l'armée de terre, 37 200 pour la marine, 40 900 pour l'armée de l'air et 28 200 pour tous les services de soutien interarmées.
Alors pour avoir un comparatif, est-ce que vous pourriez nous donner des
Alors,
chiffres précédents?
à titre, les chiffres précédents, alors, en 1962, par exemple,
Oui.
au retour de la guerre d'Algérie, l'armée de terre, c'était 720 000 hommes.
Alors,
L'armée de l'air,
il y avait la conscription.
il y avait la conscription. L'armée de l'air, 140 000. La marine, 78 500. Bon, plus près de nous, en 1989, c'est-à-dire juste avant la chute du mur, l'armée de terre était encore constituée de 296 000 hommes.
Oui.
La marine de 65 000, l'armée de l'air de 95 000 et les services de 14 500.
Et là,
Donc, si vous voulez, on
c'est
a,
tombé de façon
voilà, par rapport
considérable.
à 1989, on a divisé par deux
Oui.
le nombre des personnels sous les armes et la ponction la plus lourde a été opérée sur l'armée de terre qui a presque perdu les deux tiers, enfin 62% de ses effectifs. Voilà. Alors, évidemment, à tous ces personnels, on peut rajouter 52 000 personnels civils dans tous les sujets ancillaires d'administration, de gestion, de réparation des matériels et ainsi de suite. Donc, nous sommes encore en Europe l'armée la mieux dotée en termes d'effectifs militaires. Il y a après nous l'Allemagne, le Royaume-Uni aussi, et après c'est la chute, si vous voulez, hein. Après les autres effectifs des États membres, c'est en dessous de 100 000 hommes. Voire même plus près de 50 000, 70 000 que de nos effectifs à nous. Alors, il est évident que, moi, je note aujourd'hui, d'ailleurs, quand on parle de remontée en puissance et des budgets dont on va parler tout à l'heure, en hausse évidente, certaines d'ailleurs, on ne parle pas quand même de remontée d'effectifs de manière importante, c'est-à-dire de recréation
Oui.
des unités. Mais là, on va se trouver face à un dilemme assez crucial qui est que, dans la période de déflation de ces 30 dernières années, on a bradé quasiment tout le patrimoine foncier des armées. C'est-à-dire qu'on n'a plus de casernement, on n'a plus rien.
Ça
Si on
pose un
voulait
problème
remonter
d'ailleurs,
en
même y
puissance.
compris pour le prétendu service militaire universel que voudrait
Oui,
recréer
voilà.
Macron.
Tout à fait.
Il y a plus de bâtiments, oui.
Voilà. Donc il faudrait retrouver du foncier et on sait la pression qu'il y a sur le foncier aujourd'hui. Avec toutes les lois de préservation de la nature en plus, Nature à 2000 et ainsi de suite, même sur nos camps de manœuvre, qui pourraient se montrer trop exigus. Donc là, on a un vrai défi. Et sur ces questions-là, je reviens un peu à l'introduction que nous avons opérée. On ne sent pas qu'il y ait une définition d'une stratégie militaire, des moyens, alors aussi bien en effectif qu'en matériel, qui soit déjà élaborée et mise en œuvre face au contexte mondial aujourd'hui. Alors, on nous parle de la Russie qui, demain, serait capable de nous envahir en 2030, mais j'allais dire, pour faire face à cette nouvelle menace existentielle, je ne vois pas, moi, de réels critères de remontée en puissance qui soient à l'œuvre.
Oui,
Qui soient à l'œuvre.
oui.
Alors, maintenant, effectivement, sur le plan financier, il faut quand même reconnaître que depuis 2017, c'est-à-dire l'arrivée de M. Macron, les budgets ont cessé de décroître. Et qu'il y a eu une réelle remontée des budgets annuels et également des lois de programmation militaire qui sont en hausse croissante depuis que M. Macron est arrivé.
Mais on est
Seulement,
très loin des
voilà.
3% et même des
Oui.
2% qui seraient nécessaires,
Oui. Alors,
d'après ce
l'OTAN
que je
avait
crois
fixé
savoir.
effectivement à ses États membres d'avoir des dépenses militaires qui atteignent 2% de leur produit intérieur brut. Bon, si vous voulez, cette norme d'un pourcentage, d'une part relative du produit intérieur brut est assez absconse parce qu'elle ne veut rien dire.
Oui.
C'est un truc, c'est un chiffrement relatif entre les États, mais qui ne démontre pas la réalité d'un effort dans l'absolu. En particulier, quand j'entends dire que la Pologne va passer devant l'armée française parce qu'aujourd'hui, sa ponction sur le PIB est de pas loin de 3-8%. Bon, oui, mais de quel PIB parle-t-on? Le PIB de la Pologne, c'est 840 milliards d'euros. Le PIB de la France, c'est 2600 milliards. Alors, vous voyez bien que même la Pologne à 3,8% d'un PIB de 830 milliards n'arrive pas encore à la moitié du budget de la défense française. Donc, on voit bien que ce chiffrement par rapport à un prélèvement sur la richesse nationale n'a pas vraiment de sens. Ce qu'il faut prendre, c'est des chiffres dans leur absolu pour montrer effectivement la réalité d'un effort. Donc, cet effort, il est amorcé, je pense, depuis 2017. Même l'année prochaine, d'ailleurs, on va doubler la marge qui avait été planifiée dans la loi de programmation précédente à l'actuelle, si bien que le budget des armées de l'année prochaine va franchir une marche encore supplémentaire de 6,7 milliards d'euros. Donc, c'est quand même relativement important. Et cet effort portera essentiellement, d'ailleurs, sur les investissements en termes de programme. Mais si vous voulez, là encore, quand vous regardez les chiffres du
Donnez-les,
côté de
donnez-les.
l'OTAN et des
Oui.
Américains et du côté de l'Union européenne, on est confondu du saut qualitatif, quantitatif
Oui.
entre le monde américain et la vieille Europe. Par exemple, l'OTAN, avec ses 32 membres, a un cumul des budgets de défense de 1411 milliards d'euros en 2025, dont 980 milliards d'euros pour les seuls USA. C'est-à-dire que les dépenses militaires de l'OTAN, c'est 60% celles des États-Unis, qui en est à 3,19% de son PIB. Ensuite, vous avez l'Allemagne, qui est devant nous en effort de défense, puisqu'elle dépense 104 milliards d'euros,
Elle a
là où
l'intention de faire plus. Elle a l'intention de faire.
et
Elle l'a dit.
voilà.
Oui.
Là où la France aujourd'hui n'en est encore qu'à 59,4.
Répétez le chiffre, c'est important pour nos amis, pour qu'ils écoutent bien. Nous,
L'Allemagne, c'est
notre,
104
voilà.
milliards
Oui.
d'euros.
Et la
Le
France?
Royaume-Uni, c'est 80 milliards d'euros. Et la France, c'est 60 milliards d'euros.
Et sur ces
Ça
60
va?
milliards d'euros, il
Voilà.
y a également la dissuasion nucléaire qui nous coûte cher.
Et nous avons la dissuasion nucléaire qui nous coûte, en termes d'investissement, selon les périodes, entre 15 ou 20% des crédits. Ou après, vous avez l'Italie qui est à 44 milliards d'euros et la Pologne, vous voyez, à 38 milliards d'euros. Donc, on voit bien que l'effort de l'Union européenne, de l'UE, là, j'ai cité que les pays principaux, ils sont 5 sur les 27 États membres. Mais quand vous prenez le cumul, finalement, de l'Union européenne, vous arrivez à 381 milliards d'euros, c'est-à-dire 45% du budget militaire
Clair,
des
États-Unis,
États-Unis.
oui.
Bon, vous voyez bien que toutes les armées européennes sont encore très en deçà d'un réel effort de défense qui
Oui.
serait capable d'affronter aujourd'hui ou demain une menace existentielle. Et même avec la Russie. Alors la Russie, à mon avis, on nous l'agite comme ça pour justifier effectivement l'effort de défense que la France commet, mais je ne pense pas qu'elle soit en mesure demain de s'attaquer à la Pologne, puis à l'Allemagne et enfin à la France. Ça ne me paraît pas très sérieux comme analyse. Mais c'est là qu'on voit bien qu'il manque quand même dans ce discours français une vision stratégique
Mais bien
de
sûr.
moyen long terme qui n'existe pas en fait depuis
Bien
l'ère
sûr.
gaullienne. Faut
Bien
pas se
sûr.
le cacher.
Oui,
Faut pas
bien
se le
sûr.
cacher. Donc c'est une grande lacune effectivement pour constituer un outil militaire. Que sans cette perspective et sans une référence finalement dans l'absolu, on n'est pas en mesure de dimensionner nos armées face à un conflit dit de haute intensité que nous ne serions pas capables de conduire aujourd'hui, quoi.
Alors, quelles
Alors,
sont aujourd'hui, en face de ces capacités qui sont donc, dans le fond, extrêmement, minimes, je parle pour la France, quelles sont les menaces permanentes et la nouvelle réalité de la guerre ou des guerres qui se propagent à travers le monde.
Alors c'est toujours difficile de prendre pour
Bien
référence
sûr.
les conflits en cours parce que on a tendance dans cette disposition mentale finalement à préparer la dernière guerre, ce qui est un reproche qu'on a fait très souvent à
Bien
l'armée
sûr.
française depuis plus d'un siècle, parfois à juste titre d'ailleurs. Donc c'est difficile de dire que face aux menaces de demain, il faudrait tel outil militaire.
Oui.
Donc on agit de manière empirique, c'est-à-dire qu'on regarde de quoi sont constitués les autres arsenaux militaires dans le monde. Et on essaye de ne pas déclarer de lacunes dans un certain nombre de dispositions, d'organisations ou de dispositions en termes de système d'armes. Donc, on voit bien aujourd'hui que nous avons face à nous deux conflits que nous observons avec précision. Le conflit russo-ukrainien, où on constate quand même que cette ligne de front est figée maintenant depuis 4 ans,
Oui.
bientôt, enfin oui, depuis un peu plus de 4 ans. Et nous avons, sans qu'il y ait vraiment un pays qui soit en mesure de l'emporter. Alors, est-ce que la Russie met tous ses efforts pour finalement gagner du terrain ukrainien? On n'en est pas persuadé. Quels sont ses objectifs de guerre aujourd'hui, si c'était récupérer le Donbass, les zones russophones, finalement, les
Oui.
russophiles? On peut considérer que c'est déjà acquis. On pourrait donc figer le conflit sur les frontières actuelles, sachant que effectivement ces frontières actuelles, l'Ukraine ne les a connues que depuis 1991 finalement, hein. Les frontières orientales de l'Ukraine ont toujours varié au cours de l'histoire.
Mais bien sûr,
On prétend qu'aujourd'hui elles sont de manière intangible celles qu'on a arrêtées en 1991, sans revenir sur l'origine de ce conflit russo-ukrainien qui n'est pas totalement à charge de la Russie, mais un peu de l'OTAN, parce que c'est quand même l'OTAN qui a renié ses engagements à la chute du mur de Berlin face aux Russes de l'époque, où il leur avait été promis que l'OTAN ne s'étendrait pas vers l'Est.
oui.
Or, on a eu de cesse d'incorporer en permanence les anciens pays d'Europe centrale et d'Europe de l'Est, jusqu'aux États baltes, qui sont quand même frontaliers de la Russie. Alors, est-ce que demain, il faudra se battre pour les États baltes? Je ne sais pas. Dans la clause de l'OTAN, on devrait y aller. Donc voilà. On n'a pas répondu à nos promesses, on s'est même un peu parjuré globalement et collectivement avec les Américains et l'OTAN, et on en subit les conséquences. Donc ça, c'est un premier conflit qui aujourd'hui paraît un peu bloqué. On ne voit pas d'issue militaire à ce conflit, sachant qu'on peut être étonné de la résistance ukrainienne, bon, mais qui a quand même bénéficié d'un grand nombre de soutiens au départ des Américains, notamment en matériel, en munitions, et surtout en sources de renseignements, peut-être de sources de renseignements supérieures à ce dont disposait l'armée russe en face, quoi.
Oui.
Voilà donc pour ce conflit aujourd'hui, dont l'issue est quand même profondément incertaine, et on ne sait pas très bien qui aura la main sur l'issue. Et puis d'un autre côté, vous avez ce conflit récent entre Israël et l'Iran, dans lequel s'est lourdement impliqué les États-Unis. Là aussi, on peut dire que M. Trump a renié ses promesses électorales, en intervenant militairement massivement, de manière, on peut estimer, relativement disproportionnée. Mais là aussi, on a du mal à saisir les buts militaires de ces interventions. Si le but militaire était de faire tomber le régime iranien, on peut considérer que leur analyse stratégique était nulle et non avenue, puisque ce régime semble toujours tenir. Est-ce que les États-Unis sont sous la tutelle d'Israël? De manière très explicite, on peut le penser aussi, parce que M. Trump, quand même, contredit tous les discours qu'il a tenus pendant sa période électorale. Donc là aussi, quelle va être l'issue de ce conflit? Et on voit bien que militairement parlant, les forces engagées n'agissent pas de la même façon. Par exemple, dans ce conflit avec l'Iran, il n'y a pas de déploiement de forces terrestres encore. Tout à l'heure, vous aviez la question de notre
Oui.
auditeur sur la France est-elle capable d'aller prendre l'île de Kharg. Bon, je crois que les Américains sont pas plus capables de le faire, parce que ça veut dire qu'ils maîtriseraient complètement le détroit d'Ormuz, donc que toutes les batteries de lancement de missiles iraniennes et tout leur stock de drones chers seraient détruits. Or, on n'en a aucune certitude aujourd'hui. Donc, on voit bien que sur un plan d'engagement de moyens militaires, ces deux conflits russo-ukrainiens d'un côté et Israël-Iran de l'autre sont foncièrement différents. Alors, quelles leçons peut-on tirer pour les armées françaises de ces conflits, c'est extrêmement difficile à dire. On peut noter quand même que la France, pendant sa décrue budgétaire et son affaiblissement des 30 dernières années, a toujours essayé, grâce à nos chefs d'état-major, il faut bien le dire, de conserver quand même des compétences dans tous les domaines opérationnels, que ce soit nucléaire ou conventionnel.
Oui.
Donc on a de temps en temps ce qu'on appelle nous des unités échantillonnaires, mais qui sont capables de relancer une dynamique dans ce domaine opérationnel, ce que n'a pas fait d'autres armées européennes. Donc on aurait des capacités effectivement de remonter en puissance. Alors on a effectivement des lacunes qui sont importantes, notamment en termes de défense antimissile, parce qu'on a un nombre de systèmes assez modestes, dont certains d'ailleurs sont partis quand même en Ukraine, je le rappelle.
Oui. En particulier les solaires.
Voilà, c'est essentiellement le solaire, le système SAMPT, solaire moyenne portée, terrestre. Et donc, on a un nombre limité. Et avec ce nombre limité, on ne peut pas couvrir une force qu'on projetterait à l'extérieur et également les organes vitaux de la nation,
Bien sûr.
en particulier toutes nos installations nucléaires, de la force nucléaire de dissuasion.
Et de même pour
Donc,
les drones,
voilà.
on n'a pas une
Alors,
insuffisance.
les drones, alors que la France était précurseur en termes de drones. Moi, j'étais gamin en Algérie et mon père, finalement, commandait une unité expérimentale de drones, déjà qu'on appelait missiles téléguidés à l'époque. Et
Oui.
ça, c'était à la fin des années 50. Et après, on a laissé tomber ces systèmes et effectivement, on s'est laissé un peu dépasser. Mais pourquoi s'est-on laissé dépasser? Moi, je ne jette pas la pierre aux armées parce qu'on avait d'autres priorités qu'on estimait plus urgentes en cas d'intervention extérieure que des drones. Alors effectivement, les drones aujourd'hui ont une capacité quand même de figer les situations tactiques. On le voit bien dans le conflit russo-ukrainien, où personne ne peut sortir d'une tranchée sans être aussitôt ciblé par un drone. Et c'est un peu pareil dans le détroit d'Ormuz actuellement. On voit bien que les drones, bas coût, sont capables d'opérer, y compris sur tout le Moyen-Orient, les Émirats arabes unis, les installations américaines, Israël, et ainsi de suite.
C'est beaucoup moins cher qu'un missile.
Donc c'est beaucoup moins cher. Alors c'est moins dévastateur qu'un missile, évidemment, mais comme c'est des essaims massifs finalement de drones, ça fait quand même beaucoup de dégâts, surtout lorsque leur précision est quand même avérée, ce qui semble être le cas aujourd'hui avec l'Iran. Donc, on a beaucoup d'interrogations effectivement sur ces capacités de drones. Je pense qu'effectivement que les armées ont pris en compte cette carence finalement face à ce qui se passe aujourd'hui. Mais est-ce que ça sera la solution sur les conflits de demain? On peut le penser, mais aussi on peut penser le contraire avec tout autant de pertinence. Est-ce qu'il n'y aura pas un autre gap technologique qui ferait que le drone serait dépassé? Il faut reconnaître aujourd'hui quand même qu'on a très peu de défense contre ces drones.
Oui.
Surtout quand ils arrivent en essaim multiple, c'est très difficile de les atteindre. Ils arrivent vite, à très basse altitude, et donc le temps d'acquisition est très court, et on n'a pas les moyens adéquats. Ça peut être des armes laser, mais voilà. Alors aujourd'hui, on peut les descendre avec des rafales, mais enfin, c'est quand même un coût opérationnel et financier qui n'est quand même pas neutre de dézinguer un engin de 20 000 euros avec des missiles qui en font quelques millions, quoi.
Oui. Et
Avec
puis.
un aéronef qui en fait aussi quelques dizaines de millions. Voilà ce qu'on peut dire sur ce constat aujourd'hui qui laisse un peu désemparer les armées occidentales sur effectivement le futur de leurs propres armées.
Avec en plus cette espèce d'incertitude que Trump a l'art de développer et en laissant entendre que c'est ou, c'est-à-dire un chef d'État se doit d'avoir une certaine réserve généralement. On ne dit pas ce
Oui.
qu'on va faire. Et lui,
Oui.
il explique ou c'est ça, ou bien je vous bousille intégralement. Mais le risque, c'est que ni l'un ni l'autre n'arrive. Et
Oui, c'est
à
la
ce moment-là,
technique.
il se trouve Grosjean comme devant. Qu'est-ce qu'il fait?
Alors, l'avantage de Trump, c'est qu'effectivement, il dit ce qu'il va faire, mais comme il change d'avis toutes les 5 minutes, on n'est pas plus orienté sur ce qu'il va faire. Donc on est dans l'expectative. C'est une forme quand même, c'est une forme de stratégie.
Oui,
Je ne
parfaitement.
sais pas si elle est consciente ou inconsciente, mais on peut noter quand même qu'il la déploie avec une grande vigueur et une grande assurance.
Alors maintenant, parce que nous arrivons vers Il nous reste quelques 20 minutes, quelque chose comme ça, ou un quart d'heure, on va dire. J'aimerais que nous puissions envisager ce que pourrait être un vrai plan de restructuration et qu'est-ce qui serait souhaitable, possible. Je crois, pour avoir lu la remarquable brochure, que vous insistez beaucoup sur un aspect sur lequel personne ne vient, mais qui est d'abord l'état moral de la population, l'état même spirituel, l'état intellectuel, et la composition même de cette population. Est-ce que l'on peut faire avec des gens qui ne se sentent pas français, qui ne sont pas intégrés, et comment voyez-vous, est-ce qu'un avenir possible, à supposer qu'un redressement français soit possible demain, et qu'est-ce qu'il en est en plus des conflits qui sont proprement français, dans lesquels la France se trouve engagée, en particulier chez nous, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte, et puis ce qui s'est passé dernièrement en Afrique, où pratiquement nous avons été, grâce à la merveilleuse politique de Macron, nous avons été vidés de tous les pays africains qui nous faisaient auparavant confiance. Oui.
Alors vous soulevez là un problème essentiel, effectivement, en matière de défense, dont on parle peu, par pudeur, par inconscience ou par cynisme aussi, qui est effectivement qu'une défense nationale repose déjà sur la réalité d'une nation.
Oui.
Or, aujourd'hui, on a bien vu dans les discours de nos hommes politiques, même dans l'état actuel du monde, les hommes politiques, à commencer par les présidents de la République successifs, répugnent à parler de la nation française. On parle de souveraineté européenne, mais rarement de la nation. Or, la défense, c'est quand même un problème strictement national. D'ailleurs, c'est comme ça que c'est compris normalement dans le traité de Lisbonne de 2009.
Et c'est comme ça que c'est compris dans la Constitution de 58.
Oui, en plus. Alors, effectivement, la France est quand même dans un état, j'allais dire, de délabrement moral peut-être assez avancé. Et on le voit bien aujourd'hui, d'ailleurs, avec ces élections municipales qui montrent que on va vers un affrontement en termes de langage aujourd'hui ou de manifestation entre des extrémistes qui sont pas forcément ceux qu'on dénonce à longueur d'antenne et sans prendre parti politique d'ailleurs sur ce sujet. Mais on voit bien qu'on est en train de vivre une France fracturée. Ça a d'ailleurs été décrit par des gens plus savants que moi, l'archipel français, qui montre qu'effectivement, il y a une succession, une cohabitation aujourd'hui pas trop agressive, quoique entre plusieurs communautés et plusieurs réalités de la nation française, enfin de la nation française. Sachant que pour certains, ce terme de nation est malvenu ou n'est pas compris ou est même répulsif.
On peut dire, mon général, que pratiquement il y a dans certains quartiers une atmosphère de guerre civile qui, si elle n'est pas prégnante, est incontestablement là. Et la raison pour laquelle elle n'est pas prégnante, c'est qu'en réalité, il n'y a rien qui s'oppose.
Oui, oui, oui. Alors effectivement, cette question...
Et quand il y a une opposition, à ce moment-là, ils manifestent leur volonté de destruction.
Oui. Alors c'est vrai que c'est un souci qui habite quand même les armées et les chefs militaires, même s'ils n'en parlent pas, qui est que le sentiment national étant fortement dilué, aujourd'hui, nous incorporons des jeunes qui sont volontaires. Donc on voit bien d'ailleurs parfois la grande détresse morale, mentale de certains d'entre eux. Et le mérite des armées, c'est de leur remettre un peu l'esprit à l'endroit, en général. Alors, il y a toujours quelques échecs en la matière, mais d'une manière générale, le passage sous les armes de cette population, mais en nombre restreint. Je prends par exemple l'armée de terre, aujourd'hui, ne recrute que 15 000 personnes par an. Donc, c'est pas énorme, si vous voulez, sur une classe d'âge qui fait entre 600 000 et 700 000 jeunes, garçons et filles.
Mais il vaut peut-être mieux bien former 15 000 hommes que de prétendre encadrer 700 000 dont on ne saura pas quoi faire.
Voilà. Alors, le problème est de savoir par où on commence pour restaurer, j'allais dire, une santé mentale de la nation. Ça commence, à mon avis, dans les familles et dans l'éducation nationale. Mais ça, peu de gens en parlent, quoi. Alors certains disent, oui, le service militaire, au moins, ça avait ce mérite. Oui, mais le service militaire, On demandait aux militaires, finalement, de pallier les carences des familles, qu'on a détruites quand même, et de l'éducation nationale qui n'éduque rien du tout et qui n'instruit plus du tout non plus.
Et qui ne donne plus du
Pourquoi?
tout l'amour de la France.
Voilà, donc on a un problème de fond, effectivement, sur ce sujet, qui est qu'il faudrait reprendre les choses dans l'ordre, c'est-à-dire avoir une politique de la famille, une instruction publique qui instruise et qui forme civiquement les jeunes. Et enfin, effectivement, on pourra parler à ce moment-là peut-être d'un retour de la conscription ou d'une forme de service militaire qui permette effectivement d'avoir des effectifs un peu plus conséquents pour un conflit qui pourrait être majeur. Et même si on ne voit pas très bien lequel ce pourrait être dans le court moyen terme, il faut quand même s'y préparer. Je rappelle quand même que l'état normal de l'humanité, c'est la guerre, qu'on le veuille ou non. On le redécouvre aujourd'hui en Europe après soi-disant d'une paix un peu factice finalement, mais on retourne finalement à une période de notre histoire qu'on a déjà connue où toutes les nations sont en guerre, quoi. Donc c'est l'état normal de l'humanité. Donc est-ce qu'on est en mesure d'avoir des forces morales suffisantes pour constituer une armée capable de défendre la nation en premier lieu et après on pourra parler effectivement d'une civilisation occidentale dont personne ne parle d'ailleurs en haut lieu politique, contrairement à d'autres pays. J'observe d'ailleurs que les mêmes qui dénient à la France le sentiment national sont les premiers à féliciter l'Ukraine pour ce fort sentiment national qui les agite
Exactement.
depuis
Oui,
qu'ils ont été agressés par les Russes. Les mêmes l'ont dénié pour nous. Donc c'est quand même assez, assez fabuleux. Je ferme cette parenthèse.
Il
Donc
a.
ça, c'est le premier problème. Effectivement, pour restaurer une armée dont on soit sûr que la troupe soit aguerrie et surtout veuille bien accepter de mourir. Alors c'est ce qu'avait dit le chef d'état-major, le général Mandon, peu de temps après son arrivée à cette haute fonction, ce qui avait choqué les Français quand il avait parlé de savoir si on était prêt à accepter que nos fils meurent. Ben oui, nos fils et nos filles d'ailleurs maintenant.
Nos enfants.
Voilà. Donc, eh ben oui, c'est essentiel. Je reconnais quand même que parmi nos engagés, tous sont quand même relativement imprégnés de cette situation et sont convaincus qu'ils sont là, effectivement, et qu'ils peuvent être appelés un jour à mourir pour la France. Alors, autrefois, c'était en Afrique, on mourait pour la France, ou en Afghanistan, ou en Libye, lorsqu'on est intervenu, mais nos soldats, ils sont quand même prêts, avec leur encadrement. Donc voilà, il y a tout un substrat moral à restaurer dans notre pays pour qu'effectivement on puisse construire une défense solide qui ne se délite pas au premier coup dur qui arrive.
Alors, je prends connaissance de quelques messages qui sont
Oui.
arrivés. L'armée française devrait penser à renforcer la Légion étrangère en cas de guerre civile. Il y en a un autre. Croyez-vous dans l'avenir des robots soldats?
Oui, alors,
Et
oui.
bon, les
Les
robots
robots.
soldats.
Alors, la Légion étrangère, oui, bien
Oui.
sûr. Enfin, la Légion étrangère, bien sûr, mais il n'y a pas qu'elle. Alors, en cas de guerre civile, c'est un sujet qui est préoccupant, qui est peu évoqué. Les armées constituent des forces dites de troisième catégorie derrière les gendarmes, qui sont des forces de deuxième catégorie, pour le maintien de l'ordre. Maintenant, entre le maintien de l'ordre et la protection des populations et des institutions en cas de situation insurrectionnelle sur le territoire national, n'est quand même pas traité explicitement aujourd'hui par les armées et par le pouvoir politique. D'ailleurs, le pouvoir politique répugne, je ne sais
Répugne,
pas,
oui, bien
quand
sûr.
j'étais en poste de responsabilité à Paris. C'est un sujet que les chefs d'état-major n'abordaient plus avec les responsables politiques parce qu'ils se faisaient envoyer dans leur filet. Je ne sais pas si aujourd'hui ils en parlent entre les chefs militaires et les responsables politiques, mais il faut évoquer ce sujet d'une situation insurrectionnelle en France. On voit bien qu'à chaque fois qu'il y a des problèmes avec nos banlieues, à chaque fois on franchit quand même des étapes en matière de destruction, de nuisance, d'agressivité. Et c'est plus cantonné aux seules banlieues parisiennes, mais ça se passe maintenant dans des villes de province, même des villes moyennes, c'est assez fréquent. On en parle peu dans la presse, mais ça arrive quasiment régulièrement. Donc, on voit bien qu'on pourrait avoir affaire un jour, sur le territoire national, à un problème de sécurité intérieure où les forces de l'ordre seraient
Gravissime.
dépassées.
Oui.
Je rappelle quand même que les forces de l'ordre capables de rétablir l'ordre, et non pas de le maintenir, mais de le rétablir, c'est 12 000 CRS, je crois,
Oui.
et 13 000 gendarmes mobiles.
Oui.
Alors, de temps en temps, on nous dit pour les Jeux Olympiques, la police a mobilisé 80 000
Oui.
fonctionnaires.
Oui.
Oui, en sortant tous les administratifs, les secrétaires des bureaux, ainsi de suite.
Oui.
Mais ce n'est pas des forces de l'ordre, ça. Alors, ils ont
Oui.
été mobilisés dans leur bureau, sans doute, mais ce n'était pas sur le terrain.
Oui.
La réalité, pour faire du maintien de l'ordre, je vous le dis, c'est 12 000 CRS et 13 000 gendarmes mobiles. Voilà. Ça fait 25 000 hommes. Alors, on peut penser que dans une telle situation où ces forces seraient dépassées, sur tout le territoire national, ben on ferait nécessairement appel aux armées. Or, les armées ne sont ni équipées, ni entraînées à ce genre de posture,
De combat de rue.
sachant que, normalement, quand on engage les armées, c'est face à un ennemi qu'il faut définir. Et si on engage l'armée pour défendre nos concitoyens, nos institutions, ça veut dire que l'armée va tuer. Donc, est-ce
Oui.
qu'on a bien conscience de ce sujet?
Bien sûr.
Je ne crois pas qu'on réfléchisse beaucoup à cette question-là aujourd'hui. Mais je pense que c'est un sujet sérieux qu'il faudrait évoquer. Et là encore, je reviens un peu aux forces morales qui doivent animer nos troupes. Est-ce qu'elles sont toutes dans ces dispositions pour intervenir sur le territoire national au cas où on leur demanderait, ben, de rétablir l'ordre républicain, finalement, sur le territoire national. Et face à des hordes qui, elles, sont armées, on le sait,
Oui.
hein, avec des armes de guerre, eh ben, on n'aura pas d'autre solution que de tirer, si je puis dire. Donc voilà le problème de la sécurité qu'évoquait de votre intervieweur, si je puis dire.
Oui, et alors, ben, il nous reste quelques minutes, 5 minutes là. Est-ce que vous pourriez nous faire une conclusion? Mais j'aimerais que vous abord, que vous nous disiez en quelques mots ce que vous pensez des derniers discours que le président Macron a consacrés à la Défense, en particulier à l'île Longue, et puis encore dernièrement, je ne sais plus dans quelle occasion où il est intervenu. Et je vous cache pas que pour ma part, je suis à la fois sidéré par ce qui me paraît être une posture avantageuse de la part du président. Par rapport à une réalité qui, en fait, il ne maîtrise absolument pas.
Alors concernant cette évolution souhaitable, et pour revenir au discours du président Macron à l'île Longue, il a développé effectivement, alors les gens ont bâti ça un concept de dissuasion nucléaire
Nucléaire
avancée.
avancé.
En fait, à mon sens, ce n'est absolument pas une évolution doctrinale. C'est qu'il considère, et c'était d'ailleurs en germe dans les esprits des précédents présidents de la République, voire même peut-être du général de Gaulle, que les intérêts vitaux de la France dépassaient le cadre strict de nos frontières. C'est-à-dire qu'évidemment, si l'Allemagne est agressée, si l'Italie est agressée, même si le Royaume-Uni était agressé, il est bien évident que les intérêts vitaux de la France seraient en jeu.
Bien sûr.
Il est bien évident que l'étape suivante pourrait être la France, et à ce moment, le concept de dissuasion serait mis en vigueur, et ce que propose le président, c'est d'associer, alors pas à la décision d'emploi, dont il resterait le maître unique, pas la décision d'emploi, mais de faire participer nos partenaires européens aux exercices de dissuasion nucléaire, à notre stratégie de dissuasion. On pourrait même déployer, ce qui est un peu curieux, je trouve, des armes nucléaires sur les territoires des États membres de l'Union européenne, suivant le
Oui, mais
besoin. Voilà,
ce
alors
qui
que ça peut paraître.
justifierait par la suite une
Alors,
certaine coordination dans la décision.
voilà. Alors,
C'est le
évidemment,
sens de votre article, de votre dernier article dans Politique
oui, c'est
Magazine
ça.
sur le sujet. Oui.
Alors, on peut s'interroger effectivement sur la réalité de ce déploiement avancé de moyens nucléaires, qui seraient, à mon avis, essentiellement d'ailleurs les avions Rafale porteurs de l'arme. Donc, est-ce que c'est intelligent d'aller mettre à Berlin ou à Varsovie des aéronefs porteurs de l'arme nucléaire française? Sachant que c'est le seul président français qui en conserverait la décision d'emploi. Est-ce qu'un État d'abord trouve malin d'avoir une arme nucléaire française sans pouvoir décider de son emploi?
Bien sûr que non.
Est-ce qu'en plus de ça, le fait d'avoir accepté qu'une arme nucléaire française soit déployée sur son terrain n'en fait pas une cible privilégiée pour un adversaire?
Bien sûr.
On peut le supposer. Bon, alors est-ce que ce n'est pas plutôt un biais pour commencer à
Exactement.
forcer le pas sur l'Europe de la défense et une armée européenne, ou du moins une possibilité pour Madame von der Leyen de s'introduire dans le débat nucléaire français, de manière à
Exactement.
l'étendre à l'Europe, puisque finalement, s'il y a une défaillance américaine en matière nucléaire, le seul pays de l'Union européenne à avoir l'arme nucléaire, c'est la France.
Bien sûr.
Donc, est-ce que ce n'est pas un pas effectivement vers une armée européenne, donc vers finalement le fédéralisme européen, parce que le jour où il faudra décider de l'emploi d'une arme européenne, il faudra mettre d'accord 27 chefs d'État et qui va décider qu'on tire ou qu'on tire pas. Enfin, tout ceci peut paraître quand même largement utopique. Mais alors, est-ce que c'est une question de posture pour notre président qui se mettrait en avant sur ce sujet, ou est-ce que c'est un glissement qui peut paraître intelligent en termes d'avancée stratégique? Je ne saurais pas répondre, mais je trouve que c'est peut-être un peu osé comme vision dans le
Bien
contexte du
sûr.
jour.
Merci, Général Faugère. Merci infiniment. Alors, je répète, pour nos amis qui voudraient avoir cette brochure dont nous avons beaucoup parlé, La Défense, un impératif national, brochure éditée par le Cercle Vauban, il vous suffit d'écrire un petit mot au 1 rue de Courcelles, 75008 Paris, soit en mettant Politique Magazine, soit en mettant Cercle Vauban, 1 rue de Courcelles. Ou vous téléphonez à Henri Baclet, 06 45 21 97 57, et je vous recommande donc cette brochure, comme je vous recommande le dernier numéro de Politique Magazine, où vous trouverez un article du général Faugère sur les dernières ouvertures stratégiques de notre président Macron. Je vous remercie et je vous dis au mardi suivant, au mardi dans 15 jours. Merci beaucoup. Au revoir.
Vous venez d'entendre le libre journal de la rédaction dirigé par Hilaire de Crémier, diffusé en direct sur Radio Courtoisie mardi 7 avril 2026 de 21h30 à 23h et réalisé par Stéphane. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal, commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.